vous êtes levé aux alentours de 7 heures. Vous êtes toujours dans cette hacienda. Quand je dis hacienda, c'est en fait le plus vieil hôtel du Yucatan. Un endroit qui vous éveille par lui-même, parce que il y a au moment des changements de température certains insectes qui apparaissent, et puis surtout des hirondelles qui n'ont pas la même allure que chez nous, des hirondelles qui en ce moment sont en train de raser la piscine, une piscine turquoise sur un entourage couleur cinabre, vous savez, ce rouge très étrange que les Mayas utilisaient pour recouvrir de poudre, de cette teinte, de ce sulfate de mercure qu'ils mettaient dans leur tombe, et puis leurs monuments, leurs pyramides, tout a été peint comme cela, surtout avec ce rouge étrange, un rouge qui évoque incontestablement l'art précolombien, qui évoque la mort, qui évoque l'Ouest, mais qui évoque aussi ce qu'était certainement il y a déjà 1000 ans, un site comme Uxmal. Uxmal, le lieu construit 3 fois, dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Nous venons de passer, lorsque nous sommes venus de Mérida, un col à quelque chose comme 100 mètres d'altitude. Vous redescendez gentiment entre 12 et 8 mètres au maximum. Les Caraïbes sont tout à fait au loin du côté de l'est, l'Atlantique n'est pas très très loin du côté, presque du côté nord. Vous avez Mérida que j'évoquais, qui est la petite capitale du Yucatan, et il y a quelque chose de curieux, il y a de la sécheresse mais aussi de gros cumulus qui commencent déjà à se former là-bas dans le lointain et qui vont petit à petit recouvrir cette immense péninsule, une péninsule qui ressemble à une terre intérieure, à quelque chose qui est posé dans la mer comme un vaste bateau. La péninsule du Yucatan, c'est avant tout quelque chose de muet qui attend à cette heure-là que le soleil se lève et marque dans le ciel cette course étrange, une course tellement parfaite que 2 fois par année, lorsqu'on le sent juste à midi, en plein zénith, on a envie d'imaginer un gnomon, quelque chose planté en terre qui vous fera comprendre que toute l'énergie positive et négative peut venir de cet astre. Regardez. Il n'y a plus d'ombre à nulle part. La lumière est reine, il fait 30 degrés, même le sisal a chaud. Il pousse, là, dans cette savane, dans cette rocaille, dans ce calcaire. Le sisal, c'est le jute. C'est cette fibre qui a toujours été utilisée pour une corde, pour tendre quelque chose, pour tirer un trait, pour construire. Un Maya, du calcaire, un peu d'intelligence, un architecte, Uxmal, construit 3 fois. À quelques dizaines de kilomètres, il y a un jardin extraordinaire. J'ai parlé de sécheresse, de chaleur. Il y a eu ce moment peut-être agréable du matin, mais on se dit que sur ces terres, il n'y a pas de vie, il ne peut pas y avoir de vie. Il y a quelques cerfs, quelques biches qui parfois traversent une route, de temps à autre, mais si rarement, on peut voir un jaguar. Il y a peu d'animaux, en fait, dans ces terres du Yucatan, aujourd'hui en tout cas. Il y a peu de vie, il y a surtout très peu d'eau. L'eau tombe du ciel au moment de la saison des pluies. Là, si vous tombez en juillet, en août, en septembre, vous allez retrouver des troncs d'eau entre 3 heures et 4 heures, ou entre 4 heures et 5 heures, de façon très précise. Tout à coup, ces cumulus vont crever et des trombes incroyables vont tomber sur cette terre. Mais je vous ai dit, elle est calcaire. Le calcaire, c'est un peu comme une éponge. L'eau passe au travers et redescend dans cette incroyable nappe phréatique qui est là, en dessous de nos pieds, sous tout le Yucatan. Ici, à Uxmal, il faut creuser 30, 40, 80 mètres avant de toucher cette eau. Alors, les Mayas qui avaient envie de construire quelque chose ici, parce qu'il y avait quelque chose de magique, quelque chose d'important, ont dû utiliser des citernes. Des citernes qui vont simplement récolter cette eau de pluie, cette incroyable nourriture tombée du ciel, cette boisson extraordinaire, et ils vont la récupérer dans ces immenses citernes creusées dans le calcaire, et ainsi, ils vont construire certainement la plus grande des cités-états que l'on puisse voir dans cette péninsule, une cité infinie. Vous vous rappelez, nous nous sommes déjà rencontrés au sommet de la pyramide du Devin, nous avons contemplé ce spectacle, et là, en nous retournant depuis le sommet de cette incroyable pyramide, nous avons découvert le quadrilatère des nonnes, un quadrilatère qui n'a pas son équivalent en terre maya, mais regardez, nous allons le décrire. Du côté de l'ouest de cette pyramide du Devin, ce quadrilatère, c'est un groupe qu'il y a quelque chose d'harmonieux, il y a une sorte de raffinement dans cette architecture. C'est peut-être ce que les mésoaméricains nous ont fourni de plus incroyable. Ici au Mexique, on a l'habitude de ces cités piétonnes qui ont été construites comme cela au début de notre ère. Et on a l'habitude aussi de croire qu'aux alentours du XVIIe ou du XVIIIe siècle, les premiers promeneurs, les premiers aventuriers sont venus par là. Je pense à López de Cogolludo. Il est venu là et il a regardé simplement, il a observé dans ce fouillis de savane ces étranges monuments. Il a vu qu'il y avait des chambres qui étaient réunies les unes aux autres, il a vu qu'il y avait des portes qui donnaient sur un intérieur, une sorte d'immense patio central, et immédiatement, il a pensé à des nonnes, à des gens qui seraient venus là pour se recueillir, pour vivre infiniment cette course du soleil au jour le jour, se concentrer sur une spiritualité qui était oubliée au XVIIe, au XVIIIe. Bien sûr, les Espagnols sont arrivés sur ces terres au milieu du XVIe siècle. Ils ont tout détruit, et particulièrement ces livres, ces codex, comme on les appelle. Oh, ils sont simplement pliés en accordéon. Ils peuvent atteindre 10 ou 15 mètres de hauteur, et de longueur plus exactement. Ce sont des papiers d'écorce, de l'écorce de figuier sauvage, ou éventuellement ce cerf ou cette biche qu'on voyait courir tout à l'heure, qu'on a utilisé simplement par sa peau. On a recouvert cela de stuc, et petit à petit, on va apprendre à dessiner de manière toujours plus raffinée des glyphes. Des glyphes qui sont souvent pris dans des cartouches. Tiens, un numéro, un petit point pour le 1, 2 pour le 2, un trait ou plutôt une barre pour le 5, des calculs, l'idée du temps, la chronologie. Tout cela, on l'imagine lorsqu'on pénètre pour la première fois dans le quadrilatère des nonnes, ces livres où il y avait des dieux qui souvent avaient des nez étranges, des nez en forme, comment les appeler, en forme de trompe d'éléphant. Ben oui, même au XIXe siècle, on a cru que, ici à Uxmal, il y avait encore des éléphants à plumes. Parce que les atours principaux des précolombiens, c'est naturellement ce décor foisonnant. Je pense à la plume, mais regardez autour de vous, pénétrez dans ce quadrilatère. Et puis non, nous allons prendre la meilleure entrée, la seule possible. Nous allons visiter ensemble un monument tout à fait exceptionnel. Descendant du côté ouest de la pyramide, vous étiez perché à plus de 30 mètres. Et là, vous avez aperçu ce quadrilatère qui brillait sous le soleil, ce soleil matinal. J'ai parlé des hirondelles, elles sortent de partout. Il y en a qui nichent à l'intérieur de ces étranges... Ce ne sont des maisons, ce sont des palais. Mais je les appelle maisons parce qu'en fait, elles ressemblent à des huttes mayas avec une seule entrée et une seule porte. Ces oiseaux se glissent à l'intérieur de ces formes étranges que l'architecte a conçues, et vous descendez. Mais avant de descendre, vous êtes pris de vertige parce qu'il n'y a qu'un escalier qui vous emmène sur le côté du premier temple, et puis ensuite une volée absolument verticale. Quand je dis verticale, c'est qu'il faut se tenir. Vous avez une chaîne, mettez-vous plutôt de dos. Oui, tournez le dos au vide, et puis laissez-vous glisser pas à pas jusqu'en bas de cette pyramide. Et là, vous retrouvez la véritable dimension des choses. Le bâtiment que vous voulez visiter, cet ensemble du quadrilatère, je dirais qu'il faut... Il faut d'abord redescendre sur la place principale, c'est-à-dire au niveau du sol, le vrai sol d'Uxmal. Tout le reste est artificiel. Et puis là, vous placez devant cet incroyable escalier, un escalier très doux, mais surtout très large, qui fait pratiquement 50 ou 60 mètres de largeur, et vous apercevez déjà le monument. Vous le décrire, c'est créer une ligne, ou plutôt un rectangle horizontal, très long, percé de portes noires. Noir parce qu'il y a lumière, noir parce qu'il y a obscurité. Et au centre, vous avez la d'une arche qui n'est pas faite comme celle que nous connaissons en Europe. La voûte maya a encorbellement, comme on l'appelle en langage tout à fait spécifique, c'est d'abord deux murs qui montent et qui ensuite d'un seul coup se rejoignent vers le centre, comme si par simple effet de maçonnerie, tout cela tenait par miracle. Au sommet, une pierre qui n'est pas une pierre angulaire, non, une pierre qui est posée par-dessus, sur 30 ou 40 cm de largeur. Cette voûte est incroyable, elle monte comme cela, c'est la plus grande que je connaisse pour rentrer dans un monument. Une voûte qui monte à plusieurs mètres comme cela, et qui a une dimension spatiale étrange. Vous montez l'escalier et vous sentez cet appel comme une grande bouche. Vous la prenez vous pénétrez à l'intérieur et involontairement vous sentez comme un travelling, comme quelque chose de tout à fait nouveau, l'impression de respirer, de sentir cette aspiration aussi du quadrilatère lui-même. En passant, vous avez remarqué, tiens, il y a des mains rouges qui sont peintes sur les murs, comme si les architectes, au moment où ils avaient taillé cette pierre, le calcaire, quand on le sort d'une carrière, quand on le sort du sol du Yucatan, ben il peut être humide, après les pluies en tout cas. Il a ce côté, oh, je ne vais pas dire spongieux, mais il a cette qualité de la pierre à savon, par exemple. Quelque chose de très, très caractéristique, très doux, qui fait qu'on le taille facilement avec une autre pierre un peu plus dure. Un simple silex permettrait déjà de découper un bloc de façon parfaite. Et comme le soleil s'est levé, à l'instant où vous allez placer ce bloc bien taillé sur un autre bloc avec un peu de mortier, un mélange de chaux, cette chaux que vous aurez préparée en brûlant des arbres autour de centaines de blocs de calcaire afin de créer cette chaux vive, eh bien vous allez mélanger cela avec un peu de sable, vous aurez un mortier parfait et vous posez pierre après pierre cet ensemble que vous tenez avec un échafaudage intérieur, je pense à la voûte. Vous allez soutenir cette voûte simplement pour que rien ne tombe avant d'enlever petit à petit chaque morceau de bois et là vous attendez ce miracle parce que c'est uniquement par pression, uniquement par ce mortier, par ce remplissage, que cet Y inversé va tout à coup tenir. Il va tenir avec une masse en dessus qui correspond à la suite de la forme rectangulaire. Il y a une sorte de grand bandeau qui décore tout le haut du bâtiment avec des motifs. Mais vous étiez aspiré par la porte, vous avez vu ces mains rouges, ces mains qui ont été appliquées au moment où le calcaire était encore humide, où l'on a simplement posé sa paume dans ce cinabre rouge et l'architecte ou le maçon ou le sculpteur a voulu marquer le passage, a voulu marquer son empreinte, simplement pour dire qu'il était là. Ou on pourrait penser aussi aux grandes divinités. Il y a un dieu qu'on appelle celui aux mains de pouvoir. Peut-être que la main rouge, ce dieu aux mains rouges, est aussi représenté par ce simple signe. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien sous cette voûte. On peut seulement imaginer qu'au moment de la construction, lorsqu'on a eu terminé la maçonnerie, que le calcaire a commencé à sécher, que sous le soleil il a commencé à durcir, à devenir cette pierre jaune superbe, on va l'enduire. On va l'enduire de stuc et ensuite on y mettra peut-être encore un peu de cinabre, un peu de couleur. L'ensemble était peint. Il est toujours difficile sur des sites précolombiens d'imaginer la couleur. La couleur dans cette verdure, la couleur dans ce bleu du ciel, la couleur dans ce jaune du calcaire, dans des matières qui sont tellement naturelles, avec ce côté tellement artificiel, mais en même temps tellement en symbiose avec la nature. Je parle des formes, je parle de ces lignes, je parle de cette architecture qui se fond dans le paysage d'Uxmal. Vous êtes aspiré par la porte, laissez-vous faire. Laissez le silence vous imprégner. Il y a encore un ou deux cris d'hirondelle. Et tout à coup, vos yeux se mettent à parcourir l'espace qui est devant vous et vous vous sentez entouré. Entouré d'une magie, d'une tranquillité qui a quelque chose d'exceptionnel. Vous avez devant vous un bâtiment avec toujours cette ceinture de décoration, une sorte de forme en créneau sur le sommet, avec d'énormes masques, des masques avec des yeux, des bouches pleines de dents, des nez qui ont des formes en éléphant. Et vous observez cela et vous vous dites que sur les côtés, il y a autre chose. Vous remarquez deux autres bâtiments, mais ils sont plus bas. Ils sont en contrebas, comme si la ligne vous aspirait vers le bâtiment du nord. Et lorsque vous êtes complètement à l'intérieur, vous regardez celui que vous venez de quitter en traversant la voûte. Il est encore plus bas, encore plus sobre, avec des maisons et quelque chose qui nous rappelle ces décors des petites huttes. Nous les décrirons tout à l'heure, mais tout à coup, vous aurez remarqué que ce silence et que cette perfection correspondent à des espaces. Aux quatre angles, il y a juste un peu de ciel bleu, un peu de verdure, une sorte d'ouverture qui fait que l'architecte n'a pas fermé totalement le quadrilatère. Il vous a entouré par quatre bâtiments et là, en plein centre, vous remarquez un autre effet. Ce n'est pas un véritable quadrilatère, c'est un trapèze. Tout cela est fait uniquement pour que votre œil, à l'instant où il pénètre à l'intérieur, sente, décrive involontairement, ressente à l'intérieur de votre cerveau un espace inconnu. Tranquillité, méditation. Il n'y avait pas de nonne, mais pourquoi pas un calmecac. Un calmecac comme les appelaient les Aztèques, ces lieux où l'on apprenait. Comme des moulins à prière, comme on apprendrait un livre entier, la mémoire. la mémoire de l'histoire des Mayas, la façon de parler du ciel, de l'astronomie. Décrivez pendant des heures le trajet de Vénus, il faut 30 ans pour connaître son trajet dans le ciel. Décrivez une éclipse, le tigre qui mange le soleil à une heure inconnue. Imaginez les quatre tchaks, ces dieux de la pluie avec des couleurs différentes, ces huit petits serviteurs qui eux vont apporter les différentes pluies de l'année, les bacabs qui soutiennent le monde, des légendes, une mythologie, des dizaines de personnes qui sont là, assises en tailleur, dans l'ombre, en plein soleil, sur des marches, dans un temple, dans une autre pièce, qui repassent la grande porte, qui reviennent, qui pensent Maya, pour des centaines d'années. Vous êtes en 906 de notre ère, on vient de graver juste une date, là-haut, presque cachée dans ce bâtiment du quadrilatère des nonnes. Il faut une échelle aujourd'hui pour voir cette date, ce hiéroglyphe qui nous rappelle qu'en 906, tout était terminé, tout fonctionnait. On pensait, on écrivait, on imaginait à Uxmal. Calmecac, comme l'aurait vécu un sage aztèque. Une école où l'on apprend tout par cœur, où il suffit d'avoir quelques petits symboles colorés, un peu de mémoire, de la mémotechnique tout simplement, et puis un complexe peut-être, un complexe résidentiel comme on pourrait l'imaginer pour une élite. Une élite maya qui va construire cette cité. Oh, je ne donnerai pas de dimension, mais vous avez l'impression qu'autour de vous, il y a des kilomètres de construction, qu'il y a des kilomètres de pensée aussi, parce que il y a des voies royales qui partent, il y a des visées sur le site qui se trouve à 8 kilomètres de là. Vous êtes entouré de savoir et vous concevez tout à coup à l'intérieur de ce quadrilatère que l'architecte, ou les architectes, parce que chaque bâtiment a été construit après le suivant ou avant, enfin vous comprenez que le rythme a été donné. Peut-être qu'on a commencé par le bâtiment le plus haut, celui du nord. Et ce bâtiment nord, curieusement, quand on... Ben, laissez-vous faire, traversez la place, montez l'escalier qui vous appelait tout à l'heure. De chaque côté, il y a deux petits temples dédiés à Vénus. Oh, j'ai reconnu le hiéroglyphe. Au centre, là, vous venez de passer devant quelque chose. Ben, ce sont les cartouches. Il y a une pierre en forme de stèle, vous savez, un peu comme une pierre tombale aux formes arrondies. Et puis, sur cette pierre, il y a comme un quadrillage régulier. Oh, tout est bien effacé, mais si on lit bien, ce petit monument, qui ressemble d'ailleurs à un trône, parce qu'il a une forme avancée dans la taille de la pierre, juste sur l'avant, il y a une date, tiens, je lis le Tun, je lis le Hahao. Hahao, pour un Maya, signifie jour, signifie soleil. Signifie lumière. Tun veut dire 10. 10 Ahau, eh bien ça correspond très certainement à l'année 895 de notre ère. On peut être précis, car si tous les 10 ans les dates se répètent, tous les 20 ans elles peuvent encore se répéter. Et selon la façon de les inscrire, tous les 52 ans elles reviendront. C'est le temps, c'est l'astronomie, c'est le calendrier. Les Mayas aimaient dater tout cela. Et avant de grimper l'escalier, vous avez juste effleuré ce calcaire bien érodé par les pluies. Ces grandes pluies diluviennes que nous évoquions tout à l'heure. Vous montez les marches et vous vous retournez. Derrière vous, un décor que vous avez déjà admiré avec ces créneaux étranges et ces masques. Et puis, maintenant devant vous, Uxmal, tout entière. Uxmal posé sur un plateau, le plateau du monument que vous avez traversé avec la voûte. Au fond, une grande pyramide et puis le bâtiment le plus incroyable. Le gouverneur qui fait plus de 100 mètres de longueur et qui est posé sur 2,5 millions de mètres cubes de terre et de gravats, tout simplement pour l'élever, pour l'exhausser sur un plateau, pour que votre œil, depuis cette partie du bâtiment, vous permette de laisser glisser l'ensemble du site. À gauche, la pyramide du devin que vous venez de quitter. Thank you. On a de la chance aujourd'hui d'être archéologue. On a de la chance d'avoir le carbone 14, de savoir que Mehdi Toun ou Mehtoun Hahao de tout à l'heure, Mehdi Zahao, était certainement bloqué comme cela 5 ans avant l'année 900. Parce que grâce à des linteaux de bois, grâce à des poutraisons intérieures dans ces huttes étranges de pierre que les Mayas ont construites, eh bien, ces morceaux de bois nous ont permis de faire les datations précises et puis de se dire que si tous les 10 ans on pouvait avoir la même date, eh bien, celle-ci était certainement bloquée, comme je le disais, sur la stèle 17. Or, ce qui nous intéresse quand on est dans un univers comme celui-ci, c'est d'imaginer aussi le temps qu'il a fallu pour construire le quadrilatère. Bon, on a pensé, par les mêmes observations, que selon les techniques de construction, selon cette façon, en voyant comment travaille un Maya d'aujourd'hui, en taillant peut-être avec un outil de métal, un bloc de calcaire pour le poser sur un autre bloc, on imagine qu'il a fallu peut-être 13 ans. Et la structure que vous étiez en train de regarder, là, celle qui est au sud, elle a 16 petites chambres bien marquées. Il y a les 16 petites portes toutes noires avec la grande voûte au centre, avec cette porte centrale justement. Et il y a tout au long du décor, d'abord un bas qui est complètement nu. Tout ce qui est autour de la porte est totalement nu, mais le bandeau d'en haut est décoré de choses étranges. Il y a des masques qui sont posés sur des petites maisons, comme si on avait voulu rendre nobles ces petites huttes dessinées et travaillées dans le calcaire avec la petite porte en miniature, le toit. Et le toit lui-même, c'est une succession de masques avec des reptiles. Et puis, on a l'impression de voir pousser au sommet une sorte de plante, c'est peut-être une plante de maïs. Toujours cette exubérance. Et puis le fond qui est fait de façon extrêmement sobre, simplement un croisillon qui nous rappelle le bois, le bambou, les matériaux tout simples qui ont permis la construction des huttes et des choses que les Mayas utilisent encore aujourd'hui. Et si je regarde le plafond de la voûte que nous évoquions tout à l'heure, on pense effectivement qu'il y a eu une idée créatrice, je dirais même un dieu créateur. Vous vous rappelez des mains rouges? Les mains rouges de ces Mayas qui font penser à Itzamna, le grand dieu, ou alors celui qu'on appelait Kaboul. Kaboul, la main divine, la main céleste. D'autres masques, mais des masques du dieu de la pluie. Comment les décrire? Ce sont des masques étranges. Il y a des yeux avec de grandes paupières, il y a ces crocs aussi à la place des dents, et il y a surtout cette façon d'avoir conçu le nez qui est en fait plutôt, je dirais, un serpent, parce que le nez se prolonge tellement qu'il finit, j'ai dit une trompe d'éléphant, je crois que c'est vraiment l'image qui me vient à l'esprit quand on parle et qu'on ne voit pas l'objet. Des masques qui, avec ces trompes étranges, les unes sur les autres, les uns sur les autres, parce qu'ils sont entassés, ils sont placés en théorie véritable dans les angles ou au centre des motifs, s'entrelacent avec des serpents. Au centre du motif, toujours dans un côté un peu croisillonné, il y a des serpents bicéphales. Regardez, ils ont deux têtes, effectivement, et on voit que les têtes sont un peu emplumées et qu'il y a de très grands yeux. Et au centre, tout à coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 serpents, et en plein cœur du triangle formé par ces longs serpents à deux têtes qui commencent petit et qui terminent très grand en haut du motif, il y a quelque chose qui ressemble, regardez bien, c'est une chouette qui nous rappelle l'idée de la mort, l'idée aussi que les Mayas connaissaient parfaitement les symboles religieux et qu'ils ont voulu sur ces bâtiments nous faire comprendre peut-être un message. De l'autre côté, on va trouver un petit temple, celui qui était placé au bas des marches, qui est dédié à Vénus. Nous avons vu son son hiéroglyphe, Vénus, l'étoile du matin en l'occurrence. Et puis au nord, cette structure immense qu'on observait en pénétrant, elle fait pratiquement 80 mètres de longueur, avec une façade qui est vraiment décorée avec des éléments géométriques, toujours des masques, avec des reproductions figuratives aussi. On voit des hommes, ou plutôt des captifs, qui ont été pris pendant les batailles. Et ils sont attachés, ils sont tenus, ils sont posés comme des petites statues sur les motifs même du bandeau supérieur. Et il y a encore des petites huttes un peu partout qui nous rappellent la construction simple, celle où vit le Maya de tous les jours. Ces huttes qui aujourd'hui sont toujours en forme ovale, avec une seule entrée, avec un petit toit de chaume. Il y a encore des serpents bicéphales, il y a des barres célestes, comme on les appelle, qui sont un peu cette idée du pouvoir et cette façon que les souverains avaient de porter ces longues structures sur leurs bras, avec toujours deux figures, soit de serpent, soit de jaguar ou de bou. Et à part les captifs qui sont humiliés comme cela, qui sont nus après la bataille, on voit encore des serpents à sonnette, des tambours qu'ils tiennent dans leurs mains. Il y a un homme qui tient une torche, d'autres guerriers, des hommes oiseaux, un joueur de pelote qu'on avait retrouvé là et qui était récemment remis à jour parce qu'il traînait dans les décors. Les musiciens que l'on peut voir par exemple dans les fresques ou les peintures de Bonampak nous rappellent qu'il y a eu toutes sortes de cérémonies et qu'il y a eu toutes sortes de combats et que systématiquement les Mayas comme les Aztèques ont toujours fait des prisonniers pour pouvoir les sacrifier. Un seul témoignage comme celui de Bonampak? Non, il y en a d'autres. On a maintenant Tonina, on a Copan, on a Quirigua. Partout on parle de batailles, de morts, de prisonniers, de sacrifices humains. Et oui, si vous regardez à côté, vous allez voir encore des masques superposés, cette variante du dieu de la pluie, des Mayas, et tout au sommet, et regardez, c'est curieux, un autre masque. Il n'a rien à voir avec les Mayas, c'est Tlaloc. Tlaloc, c'est un dieu du nord, le dieu de la pluie du Mexique central. Tiens, ces gens-là voyageaient, Mexico est pourtant à 1800 km au nord. Des masques, une façon d'interpréter que même dans ces années 900, il y a eu toutes sortes d'influences. J'ai dit on voyageait, oui, on pensait, les religions se croisaient, sacrifice humain, idée de la guerre, commerce, pourquoi pas. Un simple maçon, un simple sculpteur pouvait connaître d'autres horizons, d'autres cultures, même s'il était Maya. Les masques du dieu de la pluie. Vous avez imaginé ces pluies tropicales, mais surtout l'orage qui précédait, cette dureté qui fait que tout à coup la tourmente peut se lever sur le Yucatan, des tempêtes, des cyclones, des malheurs, des famines aussi quand l'eau manque. Une vie très dure. Le Yucatan est peut-être une des terres les plus incroyablement difficiles que je connaisse. Car il fait à la fois trop chaud, il y pleut parfois trop, tout est excessif. Mais vous passez d'un masque à l'autre, d'une couleur à l'autre, d'un vent à l'autre, d'un univers à l'autre, d'une saison à l'autre. Et tout au sommet, vous avez vu les petites moustaches du dieu Tlaloc, ce dieu qui a été inventé du côté de Teotihuacan, à quelques 40 kilomètres de la capitale actuelle. Et vous avez senti qu'il y avait certainement une légitimité ou quelque chose de très fort qui était venu du centre du Mexique. Là, à Teotihuacan, la pluie est traversière, les saisons sont bien marquées, la terre est humide, il y a un printemps, un été, l'automne, l'hiver même, les sommets enneigés, le Popocatépetl, l'Itzacihuatl, ici au Yucatan, il n'y a que l'horizon, les cumulus, des tempêtes, des cyclones, un soleil qui vous fait monter la température au mois d'avril et au mois de mai jusqu'à 45 degrés. Il y avait le nord, le sud, l'est. Regardez vers l'ouest. Un bâtiment très différent, avec des ornementations extrêmement compliquées. Il y a des masques de Tchak, oui, c'est vrai, mais il y a aussi ces figures humaines, des sculptures de serpents. Regardez les serpents, ils sont emplumés. Ils sont très longs, ils prennent pratiquement toute la longueur du bâtiment. Ils se croisent au centre, ils font des nœuds, ils tournent sur eux-mêmes. Ils ont des corps extrêmement tendus, entrelacés, qui prennent, je le disais, toute la façade. Or, quand on connaît Quetzalcoatl, ce dieu du Mexique central, celui qu'on appelait ici, chez les Mayas, Kukulkan. Kukulkan est un très beau nom à prononcer. Kukul, Kukul, c'est cet oiseau au plumage vert, avec deux longs pennes à sa queue qui descendent à 60 cm, qui en font un véritable oiseau de paradis, avec une toute petite gorge rouge, un petit bec de rien du tout. Un oiseau solitaire, un oiseau qui refuse de vivre en captivité, pour une grande coiffe, pour recouvrir simplement un serpent comme celui-ci, il faudra des centaines d'oiseaux. Et puis, il y a Can. Can, c'est le serpent. Ce serpent qui, regardez tout au bout, vous avez trouvé les sonnettes. Il y a cette succession de petites sonnettes. Ce sont bien les cascabelles, comme on les appelle aujourd'hui, ces serpents qui vivent sur ces terres chaudes et sur ce calcaire. Il y a aussi cette façon étrange de terminer le serpent par une gueule énorme, une gueule qui s'ouvre et qui tout à coup nous présente à l'intérieur une divinité, une tête dans une tête, comme si cette divinité crachait quelque chose, comme si ce dieu était complexe, comme s'il représentait à la fois un début et une fin, un serpent et un autre serpent, comme si on parlait d'une naissance et d'une mort, comme si l'on parlait d'un lever et d'un coucher, comme si tout à coup Quetzalcoatl, qui ondule dans l'espace, pouvait passer de l'air à la terre, de la terre à l'eau, de l'eau à la terre, et créer cette ondulation. Regardez Vénus, elle vient de se lever à l'est. Regardez Vénus, un jour elle est à l'ouest. L'étoile du matin, l'étoile du soir. Deux versions qui nous font penser incontestablement à cette idée de... Eh oui, d'une étoile qui représente à la fois la naissance et la mort, je dirais même l'au-delà, avec ce petit rien de philosophie qu'on connaît d'ailleurs chez les Aztèques aussi, qui nous font comprendre que votre âme, après la mort, peut devenir ce Quetzalcoatl-là, cette étoile du matin. Les Aztèques l'appelaient Tlahuitzlapantecutli, une divinité étrange qui nous fait comprendre que juste avant que le soleil naisse, juste avant que cette grande chaleur naisse, cette étoile qui est encore dans ce ciel qui commence à pâlir va tout à coup être dévorée, se transformer. Elle a annoncé la grande chaleur, elle a annoncé la grande lumière, elle a annoncé la vie. Vénus, c'est la représentation de tout ce qui fait la naissance et la renaissance des choses. Vous l'avez là, sur ce bâtiment à l'est, avec cette forme ondulée. Je dis ouest ou est, ça n'a pas d'importance, parce que ce que vous allez remarquer tout à l'heure, c'est que chaque fois que je donnais un horizon, j'imaginais le miroir de l'autre. Et c'est là qu'on peut peut-être expliquer ces quatre monuments. Mettez-vous au centre, reposez-vous un instant, regardez encore une fois le nord, regardez le sud, l'est et l'ouest. Les serpents, c'est bien le bâtiment de l'ouest, mais ils regardent du côté de l'est. Les étranges serpents à deux têtes qui faisaient penser à la mort, au début et à la fin de la vie, les chouettes qui font obligatoirement penser à la nuit, eh bien, elles sont le miroir de l'ouest, même si le bâtiment est à l'est. Le nord, avec la pluie, avec les captifs, avec la guerre, regarde au sud. Et les petits bâtiments, la vie, les petites huttes comme ceci dessinées, regardent au contraire du côté du nord. Vous verrez, avec des simples points cardinaux, on pourrait imaginer, oh, c'est une hypothèse, que tout à coup, les Mayas, avec des bâtiments, parlaient aux différents horizons. Chacun son interprétation, mais vous y êtes presque. Vous n'avez pas vu les bâtiments, vous les imaginez. Ou si vous les regardez, vous les décrivez petit à petit, car il faut beaucoup de temps pour rentrer dans l'image ou l'imagerie ou l'iconographie maya. Il y avait ces deux serpents qui s'entrelaçaient, et vous avez remarqué que cette tête sortait de la gueule du serpent, cette tête qui représente la planète Vénus, juste au moment où elle naît, juste au moment où elle sort de l'horizon avant d'onduler dans le ciel. Quand je vous disais qu'on l'observait sur près de 30 ans, c'est vrai. Pour connaître exactement le lever et le coucher héliac de la planète Vénus, il faut une très longue observation du ciel. Éteignez, laissez la nuit venir, attendez. Juste à l'heure du son et lumière, vous verrez que la voûte, cette voûte où passait le soleil tout à l'heure, devient quelque chose d'étrange. Des millions d'étoiles, une voie lactée qui marque le tout, et là, tout à coup, Vénus qui vient d'apparaître. Sur ce bâtiment, il y a encore des tortues, il y a des motifs secondaires, il y a encore quelques soldats, quelques présences humaines. Mais même s'il y a un porte-étendard, même s'il y a quelqu'un qui supporte une torche allumée, on imagine les scènes, les sacrifices. Je rappelais aussi, à cause du feu, peut-être l'idée du copal. Le copal, cette offrande que l'on fait aux dieux, certainement tous les jours dans un lieu comme cela. Sentez l'odeur de cet encens. Au moment où vous posez un petit grain sur un rien de charbon de bois incandescent, tout à coup, cette fumée monte vers les dieux. Elle imite un peu ces nuages, ces cumulus que vous avez dans le ciel. Après tout, chaque année au Yucatan, au moment où la saison des pluies va s'annoncer, on brûle les champs, on brûle partout, on brûle simplement pour permettre, bien sûr, la fertilité, mais aussi à cette fumée de s'élever vers le ciel. Cette fumée qui, après avoir consumé l'herbe sèche, la broussaille, la savane, va imiter ces nuages qui se formeront petit à petit et enfin viendront, après cette longue saison sèche et chaude, brûlante, ce moment tant attendu de la première pluie tropicale. Cette pluie qui tombe par grosses gouttes sur le sol du Yucatan, même si elle est pompée. Vous savez qu'ailleurs, il y a des puits naturels. L'eau est là, elle sera là toute l'année si vous savez la puiser et la chercher. Les baobabs continuent à soutenir le monde, on les voit aussi sur ce bâtiment. On a décrit petit à petit simplement des parois, des décors. Si vous observez de plus près, vous allez voir qu'il s'agit de véritables mosaïques. Ce sont des blocs qui sont insérés les uns à côté des autres dans le mortier. Il a fallu des centaines d'ouvriers certainement pour obtenir un résultat pareil. Il a fallu surtout la conception d'un architecte, j'ai dit 13 ans et pourquoi pas 15, pourquoi pas 20, un homme qui va concevoir effectivement que la plateforme sur laquelle nous sommes montés, rappelez-vous, il y avait des escaliers avant la grande voûte, cette première plateforme va permettre de poser sur un plateau véritable ce quadrilatère, cette forme étrange en trapèze comme ceci, qui va donner par les ouvertures une dimension tout à fait particulière. Chacune des pièces peut être utilisé. On a presque envie de passer de l'une à l'autre, comme s'il y avait des cultes qui pouvaient changer à chaque chapelle, à chaque jour. Vous quittez petit à petit cet endroit. Vous avez senti le silence. Vous découvrez maintenant la surface. La surface de la partie centrale. Vous venez d'observer le jeu de pelote. Vous le traversez. Il y a encore là des serpents. Il y a un seigneur Tchak qu'on a déjà vu sur certaines stèles. Un des grands souverains parce qu'ils étaient déifiés, parce qu'ils étaient représentés ainsi partout. Et vous obtenez ensuite le résultat que l'architecte a voulu. Devant vous, une sorte de mur mental, comme une plateforme incroyablement longue, avec cette impression qu'il faut la gravir à nouveau, qu'il faut monter vers quelque chose. Et quand on parle de cette plateforme de base, eh bien c'est quelque chose qui fait pratiquement 200 mètres de côté. 200 mètres de côté et 2,5 millions de mètres cubes de terre avant de poser les gouverneurs. Le gouverneur, cette maison, oui c'est une véritable maison, est en fait constituée de trois bâtiments qui sont accolés l'un à l'autre. Et le tout est encore posé sur une nouvelle plateforme. Et là, vous grimpez les marches qu'on a dû aménager pour vous permettre de l'observer de près. Et vous allez voir que devant, il y a une énorme place. Une place qui permettrait de réunir des centaines de personnes. Un véritable stade, une place d'une importance démesurée. C'est le bâtiment aussi qu'il est, parce que cette plateforme, eh bien, permet de poser une structure qui fait 100 mètres de longueur. Divisé en trois parts, comme je le disais, avec une séparation qui correspond de nouveau à des voûtes transversales, qui ont été d'ailleurs fermées pour pouvoir faire de petites chapelles, on ne sait pas exactement à quel moment, mais en tout cas certainement avant l'an 1000, avec une façon aussi très proche de ce qu'on vient de quitter, c'est-à-dire un décor qui ressemble beaucoup aux nonnes. Il y a un bandeau absolument merveilleux qui tourne autour de ce bâtiment. Sachez qu'il y a plus de 20 000 blocs sculptés, uniquement pour créer un décor, uniquement pour créer, on l'appelle gouverneur. C'est vrai qu'on ressent la force. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Oui, quelque chose du pouvoir devant nous. Pour la première fois, on ressent que, simplement, sur peut-être 2,5 millions, plus encore 500 000 de mètres cubes de terre, on a simplement posé un bâtiment et qu'on vous dit « Je suis là, sur 100 mètres. J'ai été construit, j'ai été taillé. Chaque bloc est une mosaïque qui a sa place et qui vous donne un décor. Je suis le grand souverain. » Douchmal, je suis au centre du palais des gouverneurs, je suis moi-même sculpté à l'intérieur d'une niche avec des plumes de Quetzal. Devant moi, une grande colonne, peut-être l'arbre de vie qui traverse le monde et qui soutient le tout avec les quatre bacabes qui eux-mêmes soutiennent la base terrestre qui est un immense carré. Et puis juste derrière, un tout petit rien d'autel avec quatre escaliers et dessus, un jaguar. Un jaguar à deux têtes, une tête plus élevé que l'autre, et au centre, une forme un peu arquée qui vous permettrait simplement de vous asseoir. On assoit le pouvoir sur le jaguar du matin, sur le jaguar du soir, ce soleil qui vient d'être craché par sa gueule, ce soleil qui ce soir, dans un bain de sang, sera mangé par lui. Et ce trône, cette colonne, cette porte, sont orientés sur Napot, un tout petit site, archéologique aujourd'hui, une petite cité maya à 8 kilomètres, simplement pour dire, je suis le gouverneur, je suis le grand seigneur, je tiens toutes les villes de cette partie du Yucatan ou du pays Mayab sous mes pieds. Napot, un village, un tout petit centre, je suis celui qui est en dessus, là, dans mon palais, en dessus de mes 3 millions de mètres cubes de terre. Du jaguar, je l'ai vu occuper ailleurs. Oh, il a traîné pendant quelque temps dans l'hacienda où vous avez peut-être dormi ce matin. Il a été vu par Carswood en place aux alentours de 1840. Et je l'ai vu ailleurs. Je l'ai vu à Palenque, sur une paroi d'un des palais à l'intérieur de ce grand palais de Palenque. Oui, un bas-relief très classique, très maya. Il y a sur ce relief un des plus grands souverains, de tous les temps maya, Pakal. Pakal bouclier, le bouclier du soleil. Celui qui est assis sur un trône, mais regardez le trône. Il est fait lui aussi de deux têtes de jaguar. Et puis il y a les quatre pattes qui sont formées de deux avants de jaguar, deux pattes avant chaque fois pour former le siège. Lui est assis en tailleur dans la partie arrondie. Il a un geste superbe, il porte sur la tête des fleurs, un petit dragon, un petit rien de décor. Il a aussi des grandes nattes qui descendent de chaque côté de sa tête. Il a ce crâne déformé, cavalier maya, cet œil bien marqué, ce nez, un faux nez, tiens, typique de Palenque, un geste d'une grâce infinie, un peu comme les grands gestes orientaux, un peu comme dans les danses thaïlandaises. Et en face de lui, il y a une femme qui s'appelle Oiseau Blanc, je viens de lire le hiéroglyphe. Et cette femme porte de la jadéite, des bijoux incroyables sur une sorte d'étole qu'elle porte sur les épaules. Elle porte une ceinture de cette même pierre verte, tout en petits tubes qui ont été minutieusement taillés. Prenez un vilebrequin. Imaginez faire un trou dans la pierre sans outil de métal et de faire des petits tubes réguliers de 10 cm de haut, tout simplement pour faire une ceinture complète autour de la taille d'une souveraine. Et puis, elle porte elle-même une tiare sublime, avec des petites rondelles de jadéite qui toutes sont cousues sur un tout et en dessus. Une brassée, une sorte de bouquet de plumes de quetzal. Une est partie au vent sur la gauche, il y en a 4 ou 5 qui s'alourdissent sur la droite. Quelques hiéroglyphes, un simple petit motif dans du calcaire, quelque chose qui fait peut-être 1 mètre sur 80 cm, une plaque gravée, une sculpture, vous pourriez la prendre à Uxmal et être vous-même le grand souverain. Pourquoi pas le tchak de tout à l'heure, porter le nom du dieu de la pluie, être soi-même maître du ciel noir, de l'orage, des cumulus, du soleil, et puis vous dire, la saison commence, la saison finit, il fera beau demain, vous aurez de l'eau. Le maïs va pousser. Uxmal, une capitale qui n'a que des citernes, qui n'a pas d'eau, qui est là simplement pour commander le monde, pour commander un monde qui est beaucoup plus vaste qu'on l'imagine. C'est seulement en partant à la découverte, non seulement sur le site, mais aux alentours même du site, que l'on se rend compte à quel point Uxmal est un point crucial, central. Il y a des dizaines de petites villes secondaires, de petits centres cérémoniaux. On pourrait les décrire comme une sorte de chapelet. Et puis, au centre de ce chapelet, de ce collier, il y a le miracle de l'irrigation, le miracle de l'eau, parce que si vous allez un jour à Tikul, à Oshkushkab, ou si vous passez dans ces dizaines de petits villages mayas où toutes les huttes se ressemblent, où tous les visages sont semblables, cuivrés, où les femmes portent encore ce longue robe avec un petit rien de jupon qui dépasse, avec des broderies partout, avec ces faciès toujours identiques, on a même l'impression qu'on a encore la tête déformée comme à l'époque précolombienne, vous verrez qu'il y a une certaine richesse. Il y a aujourd'hui des orangers, il y a peut-être des manguiers, des fruits qui sont plus exotiques que ceux de l'époque précolombienne, mais il y a surtout partout la possibilité de planter un grain et d'attendre du maïs. Regardez, les femmes partent au moulin, enfin, elles n'utilisent que très rarement la pierre à moudre qui permettait de faire cette masse, cette pâte de maïs, après avoir bouilli cette céréale pendant plusieurs heures. Ah, n'oubliez pas, il faut systématiquement rajouter un peu de chaux à l'eau, car la chaux permet une chose très simple. Elle va d'abord ramollir la cosse de votre maïs et permettre d'en faire une pâte beaucoup plus raffinée, beaucoup plus fine. Et puis on dit aussi que sans la chaux, le maïs ne serait pas nourri. Oh, il y a des curiosités chimiques qui font que le mélange du maïs et de la chaux a permis à tout un peuple pendant des millénaires de se nourrir. Il y a plus de 6000 ans qu'on aime le maïs et qu'on entend dans toutes les campagnes et dans toutes les huttes, ou en tout cas juste sous l'auvent, devant la hutte, ces femmes qui frappent la pâte de leurs deux mains et qui forment ainsi petit à petit la tortilla. Une tortilla que maintenant vous prenez d'un geste souple et que vous déposez sur le comal. Cette large plaque de terre cuite qui est maintenant chauffée à blanc sur quelques braises et qui vous permettront de vous nourrir. Chaque jour attend son kilo, ces 2 kilos de maïs transformés en tortilla, un peu de sel, un tout petit rien de citron éventuellement, un morceau de gibier si vous en avez trouvé, quelques haricots, un peu de courge, on peut nourrir un peuple, on peut le faire penser pendant des millénaires. Nous avons tenté pendant une heure d'être à la fois classique et moderne, d'être ces mayas du début de notre ère qui au fond ont inventé non seulement ici à Uxmal mais dans l'ensemble de ces quelques 325 000 km² qui représente la surface occupée par la civilisation maya, on a parlé de l'arc, cette fausse voûte maya. On a parlé aussi involontairement de ce qu'on appelle la cuenta larga, c'est-à-dire le compte long. Ce compte long est des séries initiales qui font que des dates vont courir à partir de 3114 avant Jésus-Christ et qu'elles vont s'égrener ainsi tout au long de l'histoire. Et puis, comme si je disais, nous sommes en 52, nous sommes en 83, nous sommes en 92, eh bien, c'est vrai que le temps court et qu'on pourrait oublier les siècles. C'est comme cela qu'au Yucatan, on égrenait les Tun Ahau de tout à l'heure. Et puis il y avait cette écriture hiéroglyphique que l'on retrouve si rarement dans ce site d'Uxmal et qui pourtant nous a permis, sur une stèle, sur un simple autel ou grâce à un linteau, de retrouver ces années 900 qui ont fait la gloire ou le moment de gloire d'Uxmal. Et de savoir aussi que si j'ai parlé de 325 000 km², c'est de savoir qu'il y a eu d'autres sites, d'autres cultures en même temps que les Mayas. Il y a eu Teotihuacan, il y a eu Monte Alban, il y a eu Xochicalco, ça c'est pour le Mexique bien sûr, et qu'au fond, on pourrait descendre jusqu'au Guatemala, jusqu'au Salvador, on pourrait songer à toutes ces terres basses qui font la région du Petén, on pourrait aller au Belize, au Honduras, tout cela est encore occupé par ces Mayas. Je dis aujourd'hui, mais bien sûr, au début de notre ère, cette culture s'est petit à petit fixée dans différentes villes. J'ai cité Uxmal, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de ce grand classique et l'appel de ce qui viendra là-bas, juste à côté, du côté de Chichen Itza. Une sorte de renouveau venu des hauts plateaux et venu du Mexique central. Tikal, Huachactún, Ceibal, les sites principaux du sud vont tomber petit à petit. Ici, on a vécu peut-être un peu plus longtemps, à Acaba, Saïl, à Labna, ben nous reviendrons peut-être sur ces sites, tout simplement pour visiter le petit chapelet, se rendre compte que les structures de chacun de ces lieux peuvent être un peu différentes, tout en prononçant toujours le mot pouvoir. Il y a des voies royales d'un site à l'autre, simplement pour nous montrer que tout cela était conçu comme une véritable toile d'araignée, une toile de cité-état. Ici, il n'y avait que des chultunes, ces citernes en forme de bouteille, qui sont faites artificiellement simplement pour garder l'eau de pluie. Il a suffi d'un peu de magie, du choix peut-être d'un endroit plus fort qu'un autre pour que tout à coup, peut-être 5 000, 10 000 personnes vivent de rien, dans un endroit où il n'y a rien, où il faut tout amener, où il faut créer même les réserves d'eau. Et puis, vous avez aussi cette impression d'avoir découvert un pays où la découpe du temps est si particulière. J'ai parlé de l'été, nous avons parlé de Chak, nous avons parlé des différentes saisons et de ce rythme étrange qui fait que le seul moyen d'y arriver, c'est de savoir découper cette année de façon tout à fait particulière afin de faire comprendre à tous ces agriculteurs que la semence doit être mise en terre à tel moment, que les semailles, c'est quelque chose d'important, mais qu'auparavant, il faut préparer le terrain par le brûlis, qu'il faut aussi ensuite défricher certaines zones, en laisser reposer d'autres. Le Yucatan, aujourd'hui, nous le connaissons par de la savane pure, nous le connaissons par un peu de sisal qui fait du jute, mais en fait, il y a 1000 ans, c'était une terre qui ressemblait étrangement à la région de Tikal, de l'eau, des porteurs, des constructeurs, un calendrier et surtout l'envie de vivre par dizaines, par centaines de milliers avec une seule religion.